Rick Colsatt est l'un des chercheurs belges les plus mondialement connus. Il écrit en anglais, il écrit en français, il écrit quelquefois en flamand que je ne sais pas lire, mais il écrit quand même. J'ai vu des articles de lui en flamand et vraiment, je crois que c'est l'un des représentants de la pensée sociologique belge les plus éminents au sujet de la radicalisation et des problèmes liés à ce qu'on pourrait appeler les formes extrémistes de l'islam, mais aussi d'autres formes d'action radicale. Alors, la première question que je voudrais poser à toi, Rick, c'est quelle est la spécificité belge par rapport, par exemple, à la France? Si tu devais nous donner une image contrastée des radicalisés ou des djihadisés belges par rapport à leurs collègues français, comment tu les définirais?
Je crois qu'il y a une grande différence qui m'a d'ailleurs frappé en France, c'est le nombre de convertis. Donc le nombre de convertis est autour de 25% et convertis, je dirais, dans les rangs de Daesh, dans les gens qui sont partis de la France vers la Syrie et l'Irak. Donc le grand nombre de convertis, comparé à la Belgique, on est autour de 8%. Et donc ce qui m'a fait comprendre est que la situation locale et nationale entre les différents pays est extrêmement différente. Par exemple, en France, vous êtes à 25% de convertis, Grande-Bretagne, c'est un peu plus, les États-Unis, c'était autour de 40%, et chez nous, presque pas. Mais de l'autre côté, ce qui est fort, ce qui rapproche nos deux pays, malheureusement, c'est les attentats que l'on a subis donc, ces dernières années, qui sont tous le fruit, à partir des attaques de Mehdi Demouche en mai 2014, jusqu'aux derniers attentats, donc en passant les attentats en France, en Belgique, le 22 mars, en fait, ils sont tous organisés par une filière francophone, francophone étant les Français et les francophones belges, qui ont en fait rejoint deux groupes, les groupes venus de la Syrie et les groupes d'amis et de connaissances ici. Et ce noyau dur, ce réseau, hélas, lie nos deux pays.
Et quel est, pour ce qui est de la problématique linguistique, en France, je veux dire, les djihadistes français sont invariablement francophones, très rarement arabophones. Par contre, en Belgique, il y a ce qu'on pourrait appeler les flamands. Beaucoup de djihadistes belges semblent être flamands, avec aussi la spécificité de Bruxelles. Donc trois zones en quelque sorte. Comment tu l'expliques? Comment ils se communiquent? Comment la radicalisation chez les Flamands finalement emprunte le modèle qu'on pourrait peut-être qualifier de francophone? Ou sinon, pourquoi par exemple ils n'empruntent pas ou peut-être l'empruntent-ils le modèle des pays nordiques
Bon, pour commencer, Fred, je n'aime pas le mot radicalisation, parce que le mot radicalisation vraiment ne s'applique pas à cette vague de djihadistes, et même le mot djihadiste est un qualificatif beaucoup, beaucoup trop fort. Vous savez, le premier qui est parti, le plus jeune qui est parti vers la Syrie de l'Europe, c'est un gamin de 13 ans. Est-ce que c'est un djihadiste? Non, c'était le frère d'un djihadiste. Mais donc des filles, y compris en France, des filles de 14, 15, 16 ans, la Grande-Bretagne et de la Belgique, vous savez, quand on voit leur profil, leurs connaissances politiques et religieuses sont infiniment superficielles. Donc appeler ça des djihadistes, je ne sais pas. Mais la question linguistique, ce qui est frappant en Belgique, c'est que 45% des personnes qui sont parties de la Belgique, 45% sont issues de la Flandre, donc on parle néerlandais. 45% sont issues de Bruxelles, où on parle généralement le français, et 10% sont issues de la Wallonie, où la langue la plus importante est le français. Et donc les jeunes qui partent, ou les moins jeunes qui partent vers la Syrie, puisque beaucoup ne connaissent pas l'arabe, ne savent pas fonctionner dans un cadre, un environnement arabophone, sont organisés par Daesh sur base linguistique. Et c'est comme ça que les Français et les Belges francophones se retrouvent. Les Belges néerlandophones, par exemple venant d'Anvers ou de Vilvoorde, près de Bruxelles, eux, ils se retrouvent dans des brigades avec les Hollandais, avec d'ailleurs le groupe flamand et hollandais en Syrie s'appelle le camp Hollande. Et donc, c'est pour ça que toute cette filière qui est à l'origine des attentats en France et en Belgique est une filière qui est issue de ce regroupement en Syrie sur une base linguistique des brigades de Daesh. Mais je dirais pour moi, et je vais parler entre parenthèses pour employer le mot radicalisation, ce qui m'étonne, moi, c'est quand même que c'est fort frappant que toutes les âges confondus, toutes les, je dirais, leur background social confondu, l'impression qui en ressort pour moi, ce n'est pas le moteur religieux, ce n'est même pas le moteur idéologique, c'est le sentiment qu'ils n'ont plus d'avenir. C'est le sentiment que, par exemple, une phrase que j'entends souvent, par exemple à Molenbeek, on voit dans des comités de quartier, et les jeunes te disent, vous savez, nous, donc origine marocaine par exemple, n'importe quel effort que l'on puisse faire, les Belges ne vont jamais nous accepter comme des Belges. Et là, on parle de la troisième génération, parfois la quatrième génération. C'est ça qui est vraiment ce qui non seulement fait mal, mais qui pour moi est le dénominateur de tout. Pas tous, évidemment. Il y en a qui partent pour des raisons idéologiques et des raisons religieuses. Mais pour moi, le no future, l'absence de perspective me semble être le véritable moteur. Est-ce qu'on appelle ça une radicalisation? Je ne sais pas.
Non, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle l'absence d'horizon d'espérance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horizon d'espérance. Mais alors, souvent, ça ne se traduit pas par une logique de violence organisée. On met la dénomination radicalisation, mais on peut mettre autre chose. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faudra alors inventer une expression radicalisation, c'est-à-dire finalement transcrire ce sentiment de désespoir, de victimisation, de stigmatisation dans un registre de violence généralisée. Bon, on peut évidemment dire que ce n'est pas le cas, par exemple, des filles, mais qu'on peut aussi introduire des notions comme pré-radicalisation ou un certain nombre d'autres expressions comme conflictualisation. Enfin, bref, on peut. Mais alors, tout le problème est que le dénominateur commun, c'est quand même chez les garçons. La violence, c'est-à-dire une certaine forme de violence qui se nourrit du prétexte religieux
Tout à fait.
quelquefois pour se donner une légitimité.
Tout à fait. Et donc, c'est en fait ce que on a fait tous les deux parties de la première commission d'enquête, non pas la commission d'enquête, le comité d'experts de l'Union européenne, la commission européenne créée en 2006. Et quand on a comparé ce qu'on appelle maintenant la radicalisation d'extrême gauche, d'extrême droite, anarchiste du 19e siècle, en fait, ce qui est commun, c'est que l'idéologie ou la religion n'est pas à la source, n'est pas à l'origine, mais devient à un moment donné un facteur de justification de ces actes. Et donc, moi, je dirais, pour moi, si le no future, l'impression de ne pas avoir d'avenir, est vraiment le moteur de ces gens, des jeunes qui partent, à ce moment-là, la prévention devient extrêmement importante. Et tu sais, ce qui me gêne de plus en plus dans tous les programmes de déradicalisation, comme on a déjà dit dans notre rapport de 2006-2008, c'est une mauvaise expression parce qu'il se mélange avec le radicalisme qui est légitime. Il s'est mélangé depuis lors à tout ce qui est devenu islam, migration, les phobies, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, une notion qui est tellement ambiguë qu'il peut être manipulé. Ce que moi, je veux proposer dans tous les programmes de déradicalisation, on est en train de réinventer l'eau chaude, hein. On est en train de réinventer des programmes contre la discrimination, pour les opportunités d'emploi, contre la haine sociale, toutes les choses qui, dans le passé, faisaient partie d'un programme de société que l'on peut appeler une société inclusive. Mais on n'ose plus dire ça. On n'ose plus dire que on veut créer une société inclusive. Donc, ce que moi je dis, diminuons le discours sur la déradicalisation et remettons en exergue, remontant, y compris financièrement, les politiques de prévention. Parce qu'à la limite et au cœur, si moi j'ai l'impression que toi tu veux commettre un suicide, je vais essayer de t'empêcher, eh bien, c'est la même approche que l'on doit apporter à ces jeunes sans avenir ou sans perspective d'avenir entre leurs deux oreilles. Et donc, il faut leur faire comprendre que leur place est ici. Et ça, garantie sans aucune garantie. Mais quand tu essayes de dissuader un copain de ne pas se suicider, parfois ça réussit, parfois ça ne réussira pas.
Bien sûr. Mais en même temps, il y a maintenant des jeunes de classe moyenne qui ne sont pas nécessairement stigmatisés.
Tout à
Et
fait.
par conséquent, cette logique, si tu veux, de stigmatisation, d'exclusion sociale, de victimisation et de rejet ne s'applique pas à eux de la même façon.
Non, mais ce qui s'applique à eux aussi, c'est le sentiment de ne pas avoir d'avenir. Quand on voit, par exemple, dans le monde, les écoutes ou les verdicts des jeunes filles de 14-15 ans dans le Loiret, ils s'ennuient, on va les tuer pour Allah. était le titre d'un des articles dans Le Monde. Et donc, ce qui rejoint les deux groupes, je dirais, les deux groupes, donc ceux qui ont un background issu de la migration et ceux qui ne l'ont pas, c'est le sentiment dans la société actuelle qu'ils n'ont pas de perspective. Et ça peut tout aussi bien être et plus fort en France qu'en Belgique, les convertis, c'est ça? Donc, ça peut s'appliquer à ces jeunes filles. Et donc, la force d'attraction de Daesh, c'est qu'à toutes ces motivations personnelles, ils offrent une possibilité. Tu as l'impression de ne pas avoir d'avenir? Viens ici, tu auras un avenir. Tu as l'impression d'être tout seul sur le monde? Ici, on t'offre une famille. Tu as l'impression que l'on ne te respecte pas, qu'on ne t'écoute pas? On va t'écouter, tu vas être intégré dans une grande fraternité. Et donc, ça, c'est la force d'attraction qui s'applique tout aussi bien à quelqu'un qui est issu de la migration et qui sont exclus à cause de son nom ou de sa couleur de peau, qu'une jeune fille ou un garçon qui ne trouve pas sa place dans la société d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Rick. Je crois qu'on a fait quand même un bon tour de questions là-dessus. Et donc, ce sera un sujet de débat extrêmement intéressant, oui. Mais moi, j'ai défendu toutes ces idées-là, si Dieu, dans des articles que j'ai publiés. Surtout au sujet de l'absence d'horizon d'espérance, c'est ça. Comme les jeunes qui n'ont pas. Mais je t'avoue que ça me semble plus compliqué, parce qu'il y a des gens maintenant qui le font.
Ouais. Enfin, après, l'hypercachère, Eric Orsena, le terreau de désespérance. Moi, je trouvais, c'est en fait ce que tu dis, le terreau de désespérance, Eric Orsena. Ou bien le... Latifa ibn Zaytan, hein, donc la maman du soldat massacré par Mohamed Merah. Le sentiment d'abandon. Et le sentiment d'abandon, ça s'applique tout aussi bien à ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui sont des franco-français ou des belgo-belges, mais qui ont actuellement dans la société qui met énormément de pression sur les jeunes, beaucoup plus que quand nous on était jeunes dans les années 60 ou 70. Cette pression de la société sur des jeunes à qui on demande beaucoup plus que l'on nous demandait à nous quand on avait leur âge, ça joue à n'importe quel âge.
Exactement. Tout à fait.